Le 7-9 sur France Inter.
Le criminologue Alain Boer est votre invité, Léa Salamé.
Bonjour Alain Boer.
Bonjour Léa Salamé.
Vous sortez donc ce guide de survie en milieu hostile, comment vivre au temps du terrorisme, que vous avez coécrit avec François Freinet et Christophe Soulez. Avant de comprendre les causes, quelles sont les habitudes à changer et les gestes à adopter pour pouvoir vivre ou survivre, non pas au temps du choléra, mais au temps du terrorisme?
Quand vous montez dans un avion, vous avez 2 minutes insupportables. C'est la liste que vous n'écoutez pas, en train de régler votre téléphone, de le supprimer ou de regarder pré-regarder un film, c'est où sont les issues de secours et peut-être est-elle derrière vous, mettez votre ceinture, etc.
Ce
sont des règles de base
ça.
Que personne n'écoute et qui pourtant, en cas d'accident, peuvent être extrêmement utiles. Nous, on a exactement la même logique. L'État, aujourd'hui, vous dit, bon voilà, en cas d'attentat, c'est assez simple, il faut être vigilant pour garder avant où est la porte, où est la sortie, se mettre en situation de pouvoir fuir. Il faut être résilient, il faut pouvoir se cacher, alerter les secours. Et nous, on rajoute un petit élément que l'État ne dit pas, qui est on peut être aussi résistant. Et donc, on peut à la fois regarder où on est, éventuellement se préparer comme on le fait pour n'importe quelle aventure extérieure, et aussi se dire que, dans certains cas, on peut soit sauver des gens, soit intervenir, et ceux dont on se rappelle, dans le Thalys, à Nice ou ailleurs, c'est ceux qui ont fait quelque chose et qui ont probablement sauvé beaucoup de vies. Donc on essaye d'expliquer ces trois éléments de la manière la plus pratique possible, avec
une petite carte qui permet d'être dans la poche,
et puis aussi, pour d'autres, expliquer pourquoi on en est là, d'où ça vient et comment c'est. Donc à la fois c'est un outil pédagogique et un petit guide de survie.
Malgré les attentats qui ont endeuillé la France ces deux dernières années, vous affirmez, Alain Boer, qu'on est en ce moment dans une phase de décroissance du cycle terroriste. Sérieusement, c'est difficile à comprendre.
C'est-à-dire que quand vous passez de l'hyperterrorisme, vous tuez 3000 personnes en utilisant des avions que vous transformez en bombes volantes, à du micro-terrorisme, je n'ai rien, je prends un camion, une voiture, un coupe-cigare, une paire de ciseaux, et voilà, vous avez une décroissance, voilà, on passe de
l'hyper-terrorisme.
Bien sûr, considérable.
C'est comme ça que vous évaluez la décroissance du cycle terroriste ?
Il faut voir, nous, notre mission, elle est clinique. On regarde ça sous une forme parfaitement médicale. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins ? Est-ce qu'il y a une évolution des modes opératoires et qu'est-ce qui est en train de se
produire ?
Est-ce
qu'il y en a plus qu'en 2001 puisque vous...
En quantité de victimes, moins.
En actes terroristes ?
Mais c'est la deuxième question. C'est-à-dire qu'on passe de l'hyperterrorisme, on fait énormément de victimes, à du micro-terrorisme où... Et la médiatisation est ainsi faite. Chaque attentat raté, chaque attentat à moitié réussi, ou chaque attentat qui produit plus de victimes, mais dont les moyens sont d'une banalité affligeante, ce que j'appelle le lumpenterrorisme, terrorisme de proximité, de basse intensité, provoque le même effet médiatique. Mais en réalité physique, c'est très différent. Je vous prends un seul exemple, si vous me le permettez, qui n'a pas grand-chose à voir. À Littleton, quand il y a eu l'attaque des élèves pour tuer leurs copains, leurs profs, etc., on a eu l'impression que l'Amérique était à feu et à sang parce que tout d'un coup, il y a eu une trentaine ou une quarantaine de victimes. C'est l'année où il y a eu le moins de morts pour actes de violence aux États-Unis. La visibilité du fait divers dépasse très largement, souvent, hélas, la réalité quantitative.
Vous dites aujourd'hui qu'on arrive à déjouer 90% des attentats. Le but est d'arriver à 99%. Pour y arriver, il faut une révolution culturelle des services de renseignement. Moi, il me semblait qu'on avait pris un certain nombre de mesures. Vous dites que c'est pas assez. Il faut une véritable révolution culturelle. Vous dites qu'il faut que les renseignements passent du contre-espionnage, qu'ils savent bien faire depuis des années, à l'antiterrorisme, et ça, ils savent moins bien le faire.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour le faire. On leur a expliqué que l'alpha et l'oméga du renseignement, c'était l'espion soviétique. Il se trouve même s'il est un peu revenu ces temps-ci, mais enfin, il n'est pas l'élément majeur des problèmes que nous affrontons. Or, le contre-espionnage, c'est le temps long, il faut remonter la filière, prendre son temps, chaque jour gagner permet d'avoir un contact, une boîte aux lettres, une adresse, et puis au bout, le secret. Parce que le secret est absolu. Vous protégez l'enquête pour éviter que tout le monde se tire. Vous protégez vos sources, protégez vos infiltrés, etc. L'antiterrorisme, c'est exactement l'inverse. Le temps est court. Le bon antiterrorisme, c'est pas quand vous arrêtez l'auteur d'un attentat. C'est quand il n'y a pas d'attentat.
Et
évidemment,
le
partage est absolu.
Vous êtes obligé
de tout partager. Vous pouvez pas demander au même agent à qui on dit « les Russes et les Chinois sont nos ennemis parce qu'ils nous espionnent », aléatoirement les Américains, si on lit bien M. Snowden, le matin et l'après-midi, c'est nos alliés parce que nous avons les mêmes ennemis. Donc, à un moment ou à un autre, il faut changer la nature du process et faire de l'antiterrorisme et pas seulement du contre-espionnage.
Et c'est pour ça que le tueur du marché de Noël à Berlin a pu traverser sans problème les Pays-Bas, la France, l'Italie en 5 jours. par une défaillance des services de renseignement, parce que justement les services de renseignement européens font trop du contre-espionnage et pas assez du...
Non, parce qu'ils partagent beaucoup. Contrairement à une idée répandue, nous n'avons pas un manque de renseignement ou même de coopération, nous sommes juste submergés. Cette nuit et ce matin, vous avez dû recevoir des milliers de dépêches AFP. Vous n'avez pas toutes les traitées dans le journal, d'ailleurs plus personne ne vous écouterait, ça deviendrait facile. Vous faites un choix, c'est votre cerveau qui crée les conditions de l'analyse de la réalité. Or, aujourd'hui, nous avons deux oreilles, pas de cerveau, et pour résoudre ce problème, nous mettons quatre oreilles, six oreilles, huit oreilles et toujours pas de cerveau. La connexion, c'est-à-dire la capacité d'analyse, votre cerveau, celui des agents, c'est l'élément qui change tout qualitativement.
Beaucoup redoutent un attentat d'envergure en cette période de campagne électorale. Vous vous dites que les terroristes ne se préoccupent pas des élections, ils s'en foutent, je vous cite.
Complètement. C'est un, quasi, pour eux, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est un rassemblement symbolique, un élément qui permet de, une cible qu'ils annoncent d'ailleurs, puisque l'État islamique en particulier, mais c'est pas le seul, vous dit, eh bien, moi, j'attaquerai les boîtes de nuit, j'attaquerai tel type de rassemblement. Et en fait, nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais lire, jamais écouter et jamais comprendre ce qu'ils passent leur temps à nous dire, nous chanter, nous youtuber, nous tweeter d'ailleurs, un peu comme d'autres. Donc, on a un process de pré-information considérable auquel nous ne donnons pas suffisamment d'attention.
Alain Bauer, vous parliez il y a un instant de toutes les dépêches qu'on reçoit dans la nuit. Parmi les dépêches que nous avons reçues cette nuit, nous avons appris que des perquisitions ont été menées chez vous et chez l'ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations, Augustin Romanet, dans le cadre d'une enquête préliminaire qui a été ouverte en décembre 2014 par le parquet financier, notamment pour abus de biens sociaux et détournement de fonds publics. Le parquet s'étonne notamment de rapports commandés par la Caisse des dépôts et qui vous ont été facturés 200 000 euros par an, qui pourraient être des contrats de complaisance. Qu'avez-vous à répondre?
Alors d'abord, j'aime beaucoup les enquêtes Mediapart parce que la technique maintenant, c'est un journaliste.
C'est Mediapart qui a annoncé.
Un journaliste fait un papier, le parquet financier se dit ouïe. Des fois qu'on va ouvrir une enquête primaire et deux ans plus tard, vous avez une visite. D'abord, ça me permet de faire des travaux pratiques. Parce que, comme professeur de criminologie, c'est toujours intéressant de voir la réalité de ce qu'on raconte à ses étudiants. Donc, il y a un côté positif. Et ensuite, c'est à peu près légitime puisque le code de procédure pénale en France ne permet pas qu'on vous pose une question avant qu'on ait visité
et
pour voir s'il y avait des pièces.
Sur le plan, j'ai 200 000 euros par an facturés par la Caisse des dépôts.
Je facture à tout opérateur. Il y a des équipes qui s'occupent de gérer les atteintes criminelles contre des grandes entreprises françaises, la moitié du CAC 40 à peu près. Et donc, comme un certain nombre de mes collègues, moi je ne fais pas dans la com ou dans d'autres sujets, moi je gère les rackets, la corruption, les prises d'otages, parfois les séquestrations, les menaces financières. Et la Caisse des dépôts, elle a été victime d'une immense escroquerie à la taxe carbone qui a fait 7 morts et sur lequel Mediapart lui-même, par un autre journaliste que je qualifierais de plus respectable ou de plus compétent, M. Harfi a démontré parfaitement que tout ce que nous avions dit à l'époque s'était révélé dans la réalité et continue de l'être, y compris avec des hommes d'État étrangers mis en cause pour corruption. Donc voilà, j'ai fait mon travail, il a été normalement payé et je pense que cette affaire se terminera quand Mediapart aura trouvé une autre victime.
Alain Bauer était notre invité. Merci à vous. Comment vivre au temps du terrorisme? C'est chez First Edition.
Merci à vous, Léa Salamé. 8h-3.